Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 29 Charivar, 1401 du calendrier iranien, 20 septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les sanctions et le terrorisme sont les résultats de l'unilatéralisme américain, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Les sanctions, le terrorisme et la guerre sont les résultats de l'unilatéralisme, a déclaré le président iranien. Les États-Unis ajoutent les avions cargo iraniens volant vers la Russie à la liste des violations des exportations. L'Ukraine affirme que ses forces ont encore avancé vers l'est dans des zones où les troupes russes se sont récemment retirées. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien affirme que les sanctions, le terrorisme et la guerre sont les principaux problèmes qui affligent le monde aujourd'hui. Le président Ebrahim Raisi dit qu'ils sont tous les résultats de l'unilatéralisme et doivent être traités par la sagesse collective. Le président iranien a fait ses remarques à son arrivée à New York pour participer à la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Dénonçant les régimes de restriction, Ebrahim Raisi a déploré au micro des journalistes le fait que les sanctions sont devenues une arme de choix entre les mains des grandes puissances pour faire pression sur d'autres pays. Le président Raisi a déclaré que les pays ciblés se réservent naturellement le droit de riposter car il s'agit d'une situation qui représente la menace pour la paix et la sécurité dont les nations sont les victimes directes. Le président iranien a noté que les Nations unies devraient être à la hauteur de leur nom et ne pas être monopolisées par les pays puissants. Il a souligné que les problèmes affectant le monde devraient être réglés par le biais d'une participation mondiale et du multilatéralisme. Le président iranien a décrit les sanctions, le terrorisme et la guerre comme des manifestations de l'unilatéralisme et a déclaré « L'unilatéralisme cause des souffrances aux sociétés humaines ». Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Les États-Unis ont déclaré qu'ils mettront sur leur liste noire 3 avions cargo iraniens pour avoir prétendument violé leurs sanctions contre la Russie. Le département américain du commerce a annoncé lundi qu'il ajouterait 3 avions cargo iraniens desservant la Russie, à une liste d'avions soupçonnés d'enfreindre les contrôles américains à l'exportation. Cette décision fait partie des sanctions de Washington liées à la guerre de la Russie en Ukraine. Le département du commerce affirme que les avions utilisés par Mahan Air, Reshm Fars Air et Iran Air transportent des marchandises, y compris des articles électroniques, vers la Russie. Les trois compagnies aériennes sont déjà soumises à diverses restrictions par le gouvernement américain. Les tensions restent fortes entre les États-Unis et l'Iran et ont connu un regain après le retrait unilatéral en 2018 de l'administration de Donald Trump de l'accord international sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions américaines contre Téhéran. Ces nouvelles mesures interviennent alors que l'Iran et les États-Unis sont engagés depuis plus d'un an dans des négociations indirectes à Vienne pour sauver l'accord de 2015. Je suis étonné du comportement des Américains. D'une part, ils envoient un message en faveur de la négociation pour un accord et d'autre part, ils rallongent la liste des sanctions. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner, a récemment déclaré le président Raisi en réaction aux autres sanctions américaines annoncées par Washington visant les producteurs de pétrochimie iraniens. L'Ukraine affirme que ses forces ont déjà avancé vers l'est dans les zones où les troupes russes se sont récemment retirées. Un responsable ukrainien a déclaré que l'armée avait repris le contrôle total d'un autre village de la région orientale de Lugansk. Le responsable a déclaré que cela mettrait fin à la mainmise de la Russie sur cette région après que l'armée russe l'ait envahie en juillet. Kiev prépare maintenant un assaut sur la région élargie du Donbass. L'Ukraine a également repris plus de 6000 km² de terre de Kharkov dans le nord-est. Dans son message quotidien publié sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de la situation dans la région de Kharkov. Selon lui, l'armée a réussi à stabiliser la situation dans ce secteur repris par l'armée de Kiev aux Russes ces derniers jours. Les gains sont réalisés au milieu d'une contre-offensive contre les forces russes qui a commencé plus tôt ce mois-ci, reconnue par Moscou. La région de Kharkov, frontalière de la Russie, a été partiellement occupée par Moscou dès le début de l'invasion, lancée le 24 février. Mais début septembre, les Ukrainiens y ont repoussé les Russes à la faveur d'une contre-offensive. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le monde d'aujourd'hui était confronté à un certain nombre de problèmes majeurs qui découlent tous de l'unilatéralisme. Raisi a fait ses remarques lundi à son arrivée à New York pour participer à la 77e réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. Interrogé sur les sujets que le président iranien abordera lors de sa visite et de son allocution à la session de l'ONU, le chef de l'exécutif iranien a déclaré qu'il profiterait de l'occasion pour expliquer les points de vue et les perspectives de la République islamique d'Iran. L'Organisation des Nations Unies doit être véritablement une organisation pour toutes les nations. Elle ne doit pas être une organisation pour des gouvernements puissants, a déclaré le président iranien. Nous sommes maintenant confrontés à une foule de problèmes mondiaux qui peuvent naturellement être discutés lors de telles réunions pour trouver des solutions, a déclaré Raisi. Il a noté que ces problèmes étant des problèmes généraux affectant le monde entier, leurs solutions doivent être trouvées grâce à la sagesse collective. Ailleurs, dans ses propos, le président iranien a évoqué la question des sanctions unilatérales imposées au pays. Raisi a décrit les sanctions comme une arme entre les mains des grandes puissances qu'elles utilisent pour faire pression sur d'autres nations. Le président iranien a déclaré que de telles mesures coercitives unilatérales sont en contradiction avec la paix, le calme et la sécurité et nuisent principalement aux nations. Les remarques du président Raisi sont intervenues alors qu'il devait s'adresser à l'organisme mondial dans le cadre des sanctions en cours des États-Unis contre l'Iran que Washington a rendu après avoir quitté un accord nucléaire historique de 2015 entre la République islamique d'Iran et les grandes puissances connues sous le nom du plan global d'action conjoint. Les États-Unis conservent les mesures économiques coercitives, bien qu'ils soient tenus par une décision de la Cour internationale de justice de lever les interdictions qui empêchent les exportations de biens humanitaires vers la République islamique d'Iran. Naturellement, d'autres nations qui sont soumises à des sanctions unilatérales devront recourir à des contre-mesures, a déclaré Raisi, faisant référence aux contre-mesures que la République islamique d'Iran a employées en réaction aux sanctions américaines. Abordant la question du terrorisme, Raisi a déclaré que ce phénomène est à l'origine d'une grande partie des déplacements à travers le monde. Il a également critiqué le soutien apporté par certains pays et acteurs internationaux aux groupes terroristes. Le président Raisi a enfin abordé la question de la guerre et des effusions de sang dans le monde, réaffirmant l'opposition catégorique de la République islamique d'Iran à toute forme de guerre. Ces problèmes doivent être discutés et leurs solutions, comme je l'ai déjà dit, sont le recours à la sagesse collective et les discussions entre les nations, a-t-il déclaré. Tous ces trois problèmes majeurs sont les résultats de l'unilatéralisme dans le monde. Je veux dire, l'unilatéralisme donne naissance à de tels problèmes qui tourmentent actuellement les sociétés humaines, a déclaré le président iranien. Il a conclu en disant que de telles sessions devraient avoir lieu afin de trouver des solutions à ces problèmes. Le président Raisi a quitté Téhéran pour New York lundi matin, où il prononcera un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies plus tard cette semaine. Avant de quitter Téhéran, Raisi a déclaré qu'il n'envisageait pas de rencontrer son homologue américain, Joe Biden, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il n'y a aucun plan pour des discussions ou des réunions avec les dirigeants américains pendant ce voyage, a déclaré Raisi, rejetant les spéculations pour la deuxième fois depuis la semaine dernière sur une rencontre éventuelle avec Biden. Il a émis l'espoir que son voyage à New York serait fructueux.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui sera sur la France. Justement, Emmanuel Macron, le président français, a demandé encore une fois aux Français de faire des sacrifices concernant le carburant. Il y aura certainement au cours de la saison du froid de la coupure et l'augmentation du prix du carburant dans ce pays. Ce qui a bien sûr suscité la colère et le mécontentement au sein de la société française. Beaucoup de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère vis-à-vis de ces mesures. Et beaucoup de sondages ont été effectués selon lesquels donc la moitié des personnes interrogées se disent mécontents vis-à-vis de ces mesures et pensent que les sanctions européennes à l'encontre de la Russie ne va pas régler donc le problème de la crise ukrainienne. Voilà. À présent, chers amis, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Restez avec nous, je vous prie.
Alors que le gouvernement français appelle sa population à des mesures de sobriété énergétique, plusieurs personnes sont descendues dans la rue du pays pour manifester contre ces mesures et ont escandé des slogans contre l'OTAN en appelant à la destitution du président Emmanuel Macron. Le président des Patriotes, Florian Philippot, qui avait organisé cette manifestation, a publié sur Twitter plusieurs photos montrant quelques centaines de personnes portant des drapeaux français et un bandeau avec « Résistance » écrit dessus. Un monde phénoménal pour la destitution de Macron, la paix, le Flexit, la sortie de l'OTAN, le refus de rationnement et des sanctions, a-t-il écrit. Selon un communiqué du Kremlin cité par l'agence TASS, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont à nouveau entretenus par téléphone de la situation sécuritaire en Ukraine ce dimanche 11 septembre 2022. À cette occasion, le président russe aurait attiré l'attention sur des attaques régulières ukrainiennes contre les sites de la centrale de Zaporizhia, y compris le dépôt des déchets radioactifs, d'après le Kremlin. La mise en garde le président français sur une situation qui pourrait aboutir à des conséquences catastrophiques. Début septembre, le cabinet d'études ELAB a publié les résultats d'un sondage selon lequel plus de la moitié des personnes interrogées soutiennent la réduction ou l'annulation des sanctions anti-russes. 74% ont affirmé que les sanctions européennes n'allaient pas aider au règlement de la crise à l'Ukraine.
Voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour et bonjour à mon collègue.
Un plaisir de vous recevoir sur l'antenne Le Débat, diffusé depuis la capitale iranienne Téhéran. Un grand bonjour à Monsieur Emadine Hamrouni, expert des questions internationales depuis Paris. Monsieur Hamrouni, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous et à votre invité.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Hamrouni. Alors, le débat d'aujourd'hui donc s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Hamrouni. Alors, vu ces mesures prises par l'Europe en particulier à l'encontre de la Russie, ces sanctions exercées à l'encontre de la Russie se fait sentir, mais pas pour les Russes, mais plutôt pour les Européens, surtout la France, qui se prépare à faire des sacrifices au cours de la saison du froid.
Oui, c'est la rentrée politique. Donc, la question la plus importante aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, les conséquences, les sanctions de la Russie. Donc, en France surtout et en Allemagne. Et vous avez évoqué la crise énergétique, mais il n'y a pas que ça, il y a la crise alimentaire. On est dans l'inflation, on est dans la stagflation, là, il y a une stagnation de l'économie. Il y a un problème grave politiquement parce que la volonté du peuple français, elle n'est pas représentée dans la classe politique. Aujourd'hui, on a une extrême gauche, extrême droite qui ne peut faire pas grand-chose. Et on a un pouvoir qui est impliqué dans une guerre géopolitique qui dépasse la France et qui dépasse l'Ukraine même. Donc l'enjeu, il est très important. L'enjeu n'est pas que français, il n'est pas qu'européen, il est mondial. Et donc le président français, Emmanuel Macron, essaye par des contacts directs et indirects avec la Russie de trouver quand même des relations plus ou moins politiques avec la Russie, à savoir à amoindre la crise économique en Europe. Et donc on a vu que l'Allemagne souffre énormément au niveau énergétique, la France aussi, et on va avoir une crise sociale. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui en Europe. On voit l'extrême droite qui monte en Suède, au Danemark, en Norvège. Et donc, c'est une atmosphère très complexe en Europe, politiquement, économiquement et socialement.
Absolument. Monsieur Luc Michel, vous avez entendu les propos de Monsieur Ambruni. La France cherche à essayer de trouver un équilibre depuis le début de la crise ukrainienne. En vain, que pensez-vous?
Ben écoutez, l'Europe a suivi aveuglément les Américains dans le soutien à la guerre américaine en Ukraine, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est une guerre en procuration à travers l'Ukraine et la Russie, mais en réalité, ce sont les États-Unis qui font la guerre à la Russie. La guerre des sanctions dans laquelle imprudemment les secondaires se sont lancés est un échec et un boomerang qui frappe surtout les peuples européens. Et au milieu de tout ça, évidemment, l'extrême droite est montée, puisque c'est elle la seule force qui est opposée à cette guerre. Que ce soit en Tchéquie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, la population est opposée à la guerre. Et l'hiver révèle être redoutable pour les populations européennes, qui vont devoir choisir entre se chauffer, manger, se soigner ou rouler en voiture. C'est donc la nature de la crise qui frappe l'Europe. C'est la stabilité des Européens qui est en cause ici.
Monsieur Luc Michel, vous avez dit tout à l'heure que la France a suivi aveuglement la politique américaine dans la crise ukrainienne. Mais d'après vous, qu'est-ce que la France aurait dû faire justement, si elle n'avait pas suivi aveuglement les États-Unis?
Écoutez, l'allié naturel des économies ouest-européennes, ce sont les économies russes. Les Russes, qui étaient favorables à ces populations, fournissaient du gaz et du pétrole bon marché. Et les dirigeants ouest-européens se sont laissés piéger dans une guerre suicidaire des sanctions. Une guerre d'hydrocarbures contre la Russie.
Oui, tout à fait. Monsieur Ambruni, votre prise d'opposition à cet égard, l'hiver sera très rude, donc dans les semaines à venir, pour les Français qui ont été demandés de faire des sacrifices à cet égard, des Français qui ne sont pas prêts à le faire. Les Français sont trop gâtés vis-à-vis de cela. Est-ce que vous croyez que la France va aboutir donc à régler cette crise?
J'espère, parce que ça sera très, très difficile de trouver dans un temps très réduit l'approvisionnement en gaz à part la Russie. Et donc là, il y a de la recherche vers l'Algérie, vers d'autres moyens de trouver donc le gaz qui va manquer. Mais il n'y a pas que le gaz. Il faut comprendre la complexité de l'économie. Il y a ceux qui profitent de la guerre, c'est-à-dire les multinationales qui gagnent énormément d'argent sur le dos de la population européenne. Et donc, c'est dans leur intérêt que cette guerre dure. Et on a vu qu'il y a beaucoup de tentations de la France et l'Allemagne de trouver des solutions avec la Russie. Mais à chaque fois, on aboutit à autre chose, c'est-à-dire ou bien toute forme de dialogue entre Ukrainiens et Russes est interrompue, ou bien les États-Unis vont amener plus d'armes à l'armée ukrainienne. On a vu le contre-attaque de l'armée ukrainienne. Et donc, il y a, si vous voulez, une atmosphère, comme je l'ai dit tout à l'heure, très nocif. Ce n'est pas simplement au niveau énergétique, mais au niveau géopolitique. Cette guerre, elle peut aller au-delà de la frontière de l'Ukraine. Cette guerre, elle peut devenir une guerre nucléaire. Et donc, on est dans une période intermédiaire, si vous voulez. Ou bien on va trouver des solutions politiques. Ce n'est pas simplement des solutions énergétiques, Il faut solutionner le problème avec la Russie. Il faut que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne trouvent une solution géopolitique avec la Russie, avec Poutine. S'ils ne vont pas trouver une solution géopolitique, on va avoir la Troisième Guerre mondiale bientôt. Et donc, la crise, elle est profonde. La crise, elle est économique, mais surtout, elle est géopolitique.
Oui. Monsieur Luc Michel, vu que les États-Unis ont traîné la France dans cette crise ukrainienne, et maintenant que la France est en difficulté à cet égard, on a une grande impression que les États-Unis ont laissé tomber la France et certains pays européens également.
Écoutez, les Américains dans la guerre en Ukraine avaient deux buts de guerre. Le premier but était militaire, c'est épuiser la Russie, mais le second but était économique, c'est fracturer les économies ouest-européennes qui sont le principal concurrent économique dans la guerre économique des États-Unis. Il y a une guerre économique Europe-États-Unis depuis les années Reagan et qui est doublée d'une guerre financière du dollar contre l'euro. Mais je ne pense pas que Macron essaye de dialoguer avec la Russie. Macron est un représentant du parti américain, comme tous les politiciens ouest-européens qui sont des Atlantiques, et ils se suivent aveuglément les États-Unis. Il n'y a malheureusement pas de solution. Les économies ouest-européennes sont les grandes perdantes de la guerre en Ukraine.
Absolument. Oui. Monsieur Luc Michel, sortons de ce contexte et parlons du mécontentement du peuple français dans ces mesures prises par le gouvernement français qui exigent tout simplement la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous croyez que c'est faisable?
Écoutez, il y a un mécontentement profond de la population, mais malheureusement, ce mécontentement est cadenassé par l'extrême droite. Florent Philippot est un néo-fasciste. Ce n'est pas quelqu'un qui est représentatif du peuple français. Il n'a aucun élu aux élections législatives. C'est quelqu'un qui a voulu dépasser sur son extrême droite Marine Le Pen et qui a échoué. Maintenant, la population en France, comme en Allemagne, comme en Tchéquie, comme en Italie, comme en Grande-Bretagne, est profondément mécontente. Mais cette représentation n'est pas exprimée politiquement par l'extrême droite.
Oui, Monsieur Amrouni, votre prise d'opposition à cet égard. Le peuple français exige la destitution, le Frexit, etc. Est-ce que vous croyez que c'est faisable?
Non, malheureusement, parce que cette représentation n'est pas exprimée.
Oui, excusez-moi, Monsieur Amrouni, Monsieur Luc Michel est en train de poursuivre. Et nous serons à vous tout à l'heure. Monsieur Luc Michel, vous voulez dire quelque chose?
En Angleterre, par exemple, il y a un mouvement, au moment où on fait de la propagande sur la mort d'Elisabeth II et sur l'arrivée au pouvoir de Charles III, il y a un mouvement de la population qui est un mouvement de brûler les factures d'électricité et de refuser de les payer parce que la population anglaise est plongée dans la misère. Mais tant qu'il n'y aura pas des forces politiques derrière ce mécontentement, évidemment, on ne débouchera sur rien. Il n'y a qu'en Italie, évidemment, où le retour dans la politique de Berlusconi va se dérouler. Il y a des élections à la fin du mois. Elles vont voir les forces opposées aux atlantistes, évidemment, arriver au pouvoir. Mais ce n'est pas le cas en France ou en Grande-Bretagne ou encore en Allemagne.
Oui, Monsieur Amrouni, est-ce que vous voulez bien poursuivre, je vous prie, et votre réaction à cet égard?
Vous savez, la société, le peuple français, il est imprévisible. Les sources de mécontentement, elles existent et elles s'agrandissent jour en jour. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'inflation, on peut parler de la récession, on peut parler de la crise politique, de la représentation politique. On a une gauche extrême et une droite extrême qui est représentée dans le Parlement, et on a un pouvoir exécutif qui agit tout seul. Et donc on a un problème fondamentalement politique de la représentation. Oui, si les événements dont la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine s'intensifient dans cet hiver, avec les problèmes énergétiques, on aura vraisemblablement un mouvement social. Un mouvement social qui soit représenté par les syndicats, un mouvement social représenté par la jeunesse, par les étudiants, et un mouvement social représenté encore une fois par les gilets jaunes. Donc il y a une atmosphère en France et même en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et même en Espagne. On attend en fait, on est dans un temps intermédiaire. Ou bien on va trouver les solutions avec la Russie, ou bien on va aller vers l'affrontement. Et donc l'affrontement, c'est-à-dire la guerre totale. Et on est dans une atmosphère de guerre. En fait, on prépare l'opinion publique européenne à accepter la guerre. C'est ça la plus importante information.
Monsieur Abrouni, on dirait que l'opposition, enfin les Français qui sont mécontents, souffrent énormément de manque de soutien d'une grande force politique, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. La grande force politique, le système, l'État profond français, il est très rusé. C'est-à-dire qu'il a réussi à diviser la représentation en extrême droite et extrême gauche. Et donc, M. Mélenchon n'a pas réussi totalement, Mme Le Pen n'a pas réussi totalement. Donc, on a un échec, en fait, de la représentation dans les extrêmes. Par contre, toute la démocratie gaullienne, la démocratie libérale, chrétienne, elle n'arrive pas à avoir des représentants. Mais cette atmosphère favorise la montée de la violence, la montée de l'extrême droite et la montée du fascisme. Je pense que les services de renseignement américains favorisent le retour du fascisme en Europe que le retour des démocrates chrétiens, par exemple.
Luc Michel, votre réaction, je vous prie.
Bah écoutez, la soi-disant démocratie libérale, elle est cadenassée. Les forces d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est ce que j'appelle les proxénètes du régime. En réalité, ils sont complices pour ce cadenassage et ils sont chargés de neutraliser les oppositions. Des gens comme Mélenchon ou Le Pen, évidemment, ils ne veulent absolument pas une révolution. Ils veulent le maintien d'un système. À côté de ça, il y a des forces sociales importantes qui refusent la misère et qui refusent justement ce blocage. C'est toute la solution. Maintenant, je ne crois pas au débouchement sur une guerre mondiale, mais je crois à une crise économique qui s'approfondisse. Tant que les atlantistes européens soutiendront la politique américaine et la guerre américaine en Ukraine, il n'y aura pas de solution. Maintenant, il faut voir évidemment si ces forces sociales déboucheront dans la rue, comme l'ont été les gilets jaunes. Je pense que les gilets jaunes n'ont été qu'un essai, si vous voulez, un essai de soulèvement social et qu'on arrive maintenant aux choses sérieuses.
Monsieur Luc Michel, vu la grande crise énergétique qui attend les Français, peut-être dans la saison du froid, dans les semaines à venir, va peut-être changer la donne et cette crise qui demeure encore économique va rester ainsi, à votre avis ?
Écoutez, on est devant une crise profonde, que ce soit en France ou en Belgique, il y a des faillites par milliers. Il y a les classes moyennes qui n'arrivent plus à exercer leurs fonctions économiques. Bruxelles est plongée dans des fermetures de magasins, des crises, etc. Mais c'est l'Angleterre qui nous annonce évidemment la véritable nature de la crise cet hiver. Les Anglais doivent choisir, je l'ai expliqué, entre se soigner, se chauffer et manger. Il y a des vieillards qui n'arrivent plus à se payer un repas. Il y a, malgré toute l'intense propagande sur la mort d'Elisabeth II, il y a maintenant des manifestations qui sont réprimées. Aujourd'hui, il y a l'enterrement d'Elisabeth II. La police anglaise a prévu qu'il y aurait des forces de répression extrêmement dures contre les manifestations. Malgré cela, il y en a. Il y a quelques heures, le roi Charles III a été insulté par une manifestante qui expliquait qu'elle n'arrivait plus à se payer un repas. C'est évidemment cette crise sociale qui va dépasser le blocage politique qui est intéressant à suivre.
Un discours choquant de la part de M. Luc Michel. M. Abrouni, votre réaction, je vous prie.
Exactement. On est en plein changement du système global. C'est-à-dire la crise, elle est systémique. Elle est activée par la guerre en Ukraine, mais elle existe déjà, cette crise, depuis 2008. C'est-à-dire depuis 2008, on est dans la crise. Et on est dans le changement du centre de gravité de la civilisation qui passe de l'Europe vers l'Asie. Et on a un déséquilibre créé par la guerre en Ukraine entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne va financer au-delà de 150 milliards l'armement. On va avoir un retour de l'Allemagne en tant que l'Allemagne militaire. Et donc ça, ça dérange la France. Vraiment, cette crise, elle va changer pas simplement la nature économique, mais elle va changer les cartes géographiques. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Car lorsqu'il y a déséquilibre, il y a la guerre.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos?
Écoutez, un des buts de guerre des Américains, qui était de recadenasser l'OTAN et de redominer l'OTAN et ses élites atlantistes. Il y avait des velléités d'indépendance qui existaient il y a quelques années, notamment on parlait d'une défense européenne autonome. Tout cela est abandonné et c'était déjà les buts de Donald Trump en 2018 quand il y a eu le sommet de l'OTAN à Bruxelles. C'était d'obtenir des Européens qui suivent aveuglément la guerre américaine. Mais les Américains n'ont pas compris le fossé qui se creusait entre les élites occidentales et le reste du monde. Aujourd'hui, 82% de la population mondiale, comme l'a montré les sommets des BRICS, les sommets de l'OCS il y a quelques heures, ou encore la revitalisation des mouvements non alignés autour de l'Indonésie. 82% de la population est derrière la Russie et ne soutient pas l'Occident. Ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est 20% de la population mondiale et moins d'un milliard d'individus. L'OCS, par exemple, représente 6 milliards d'individus. La Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, le Pakistan, les ex-républiques soviétiques, les Américains eux-mêmes, à travers la guerre en Ukraine, ont sapé les bases de leur nouvel ordre mondial. Et la victoire américaine, obtenue à l'arraché à la fin de la Seconde Guerre, de la Première Guerre froide et de l'éclatement de l'URSS, aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir. C'est la fin de la domination militaire américaine. C'est la fin de la globalisation économique et c'est la fin du monde du dollar. Tout cela, c'était les buts de guerre de Poutine. Le volet militaire en Ukraine, ce n'était qu'une cerise sur le gâteau. Les véritables buts de guerre de Poutine, c'est d'en finir avec le nouvel ordre mondial. Il est en train de réussir.
Monsieur Ambruni, que va-t-on faire? Est-ce que cette grande crise que vous parlez tous les deux, qui attendent donc l'Europe en particulier, est inévitable ou il y a encore des solutions, comme par exemple renoncer à des sanctions exercées à l'encontre de la Russie? Pour terminer. Malheureusement, nous n'avons pas la liaison avec M. Ambruni. M. Luc Michel, est-ce que vous croyez que cette grande crise qui attend l'Europe et l'Occident,
bien sûr, inévitable? Le problème de l'Europe, c'est que partout, ce sont au pouvoir des gouvernements atlantistes et surtout au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen à Bruxelles. Derrière ces atlantistes, il y a le State Department américain, il y a l'infrastructure militaire de l'OTAN et il y a le puissant lobby qui est constitué par les organisations de George Soros. George Soros a fait une interview la semaine passée. Il explique que depuis 20 ans, il a pris en main la politique ukrainienne et que toutes les forces politiques ukrainiennes sont tenues en main par ces organisations. Donc je ne crois pas une évolution politique de l'Europe. L'Europe est lancée dans un jusqu'au-boutisme, mais heureusement, il y a des forces économiques et militaires qui se dressent contre cela. En Allemagne, par exemple, derrière l'ancien chancelier Schröder, il y a des forces qui veulent négocier avec la Russie. L'inspecteur général de la Bundeswehr, le général Eberhardt, il a fait une interview la semaine passée au magazine Focus qui a été reprise par le Figaro. Il explique que la Russie, évidemment, n'est pas du tout en train de s'effondrer, qu'elle a gagné la guerre en Ukraine et qu'il faut tenir compte de cette puissance. Donc il y a des forces en Europe. Ça dépendra si ces forces pourront émerger face aux élites atlantistes qui ont trahi les peuples européens.
Absolument. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à M. Mahdedine Hambruni, expert des questions internationales, qui a également participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Bonjour chers auditeurs, dans les émissions précédentes, nous vous avons fait découvrir les activités de plusieurs entreprises basées sur le savoir en Iran. Dans ce programme, nous présenterons une autre de ces sociétés nommée Qiatel. La compagnie Qiatel a été fondée en novembre 2018 avec pour projet l'autosuffisance du pays ainsi que le recours au savoir scientifique et aux compétences techniques des experts iraniens dans le sens de la recherche, de la nationalisation des connaissances techniques, de la conception et de la création de plateformes téléphoniques et la construction de matériel de télécommunication ainsi que la mise en œuvre de projets liés au domaine de la communication. En 2017, l'entreprise a obtenu le permis d'activité dans ce domaine en tant qu'entreprise fondée sur le savoir. En peu de temps, la société Qiatel a réussi à distribuer ses services conformément aux technologies les plus avancées et aux dernières normes nationales et internationales. Depuis près de 30 ans, plus de 3 millions de ports de produits numériques, NGN, IMS et IP de cette société ont été installés et sont actuellement exploités dans près de 2500 sites de télécommunications et entreprises, institutions, centres éducatifs et médicaux ou encore installations industrielles à travers le monde. Parallèlement à l'évolution de la technologie dans le secteur des télécommunications à la transformation des réseaux TDM en réseaux IP, Qiatel a conçu et fabriqué ses produits avec de nouvelles fonctionnalités et options. Les experts de cette entreprise ont évité aux acheteurs de dépenser des frais supplémentaires liés au remplacement de leur matériel en envisageant la possibilité d'utiliser le matériel disponible dans les nouveaux réseaux. Le siège central de la compagnie se trouve dans la province de Téhéran et son usine est située dans la province d'Alborz. Les produits de Qiatel incluent des équipements de réseaux de télécommunications publiques et privées, des équipements de réseaux de télécommunications pour la transmission d'énergie et des stations de traitement des réseaux de télécommunications publiques et privées. Les systèmes et dispositifs CU 200, 400, 1000 et KSS 200 sont des exemples des 5 produits de Qiatel qui sont reconnus comme des équipements de réseau de télécommunications publiques de cette société. Une des caractéristiques du dispositif CU 200 400 000 est sa capacité à prendre en charge 200 à 1000 abonnés par module. Une des caractéristiques du système KSS 200 est sa capacité de 2 millions d'utilisateurs par poste et la possibilité d'effectuer 200 000 conversations simultanément. Le modèle KX1000 est un exemple des 4 produits de la société Qiatel qui a un équipement pour les réseaux de télécommunications privées de cette société. Ce produit a notamment la particularité d'avoir une capacité de 200 champs de communication VoIP simultanée pour 1000 utilisateurs enregistrés. Pour rappel, la VoIP, pourvoi via le protocole Internet, est un système de téléphonie IP permettant de transmettre des signaux vocaux par les réseaux numériques. Nettement plus élaborée que la téléphonie traditionnelle, cette technologie permet une large gamme d'applications pour les communications et le travail collaboratif. Le produit CPL est l'un des équipements de télécommunication des réseaux de transmission d'énergie de cette société et possède des capacités telles que l'utilisation de la technique de modulation numérique et la possibilité d'attribuer des canaux dans toutes les largeurs de bande. Il possède également la capacité de diviser la fréquence dans la bande en utilisant des méthodes numériques et une puissance de sortie réglable. Il a une planification et a élégamment été approuvé, techniquement parlant, par l'Institut de recherche NIRU et l'entreprise Tavonir, deux organes liés au ministère de l'Énergie. L'une des solutions du réseau public de télécommunication de Kiatel pour les utilisateurs est que les abonnés fixes puissent transférer leurs appels vers le numéro de téléphone mobile souhaité sans payer de frais. En outre, et dont la possibilité de contrôler le lieu de travail et la maison via Internet, de profiter de conversations gratuites avec d'autres abonnés du réseau téléphonique IA, d'avoir une réduction des coûts d'appel grâce aux conversations via le réseau IP, d'enregistrer des conversations à la demande de l'utilisateur et de manière limitée pour les abonnés. Les produits Kiatel sont conçus et réalisés sur la base des standards internationaux en tenant compte des différentes demandes et services souhaités par les utilisateurs. La variété des produits et les compatibilités aux besoins des utilisateurs des différents réseaux permettent aux acheteurs de répondre à tous leurs besoins en télécommunication avec les produits Kiatel. Les projets de l'entreprise Kiatel comprennent le projet NGN, le projet Ritel et des projets de communication dans le secteur des non-télécommunications. Nous parlerons brièvement de ces projets. Les objectifs du projet NGN de Kiatel, qui a débuté en 2015, ont été de mettre en œuvre le réseau de nouvelle génération NGN dans 10 provinces d'Iran et de remettre les abonnements téléphoniques SIP aux candidats via des équipements et des passerelles FTTX. Compte tenu du développement des technologies de la fibre optique et de la nécessité de fournir de nouveaux services aux abonnés fixes, la compagnie Iran Télécommunications a défini le projet de mise en œuvre des réseaux de nouvelle génération dans 10 provinces du pays et a confié la fourniture d'équipements et la mise en œuvre d'une partie du projet à Kiatel. Les objectifs du projet Ritel, qui est le deuxième projet de l'entreprise, est de créer des sites de téléphonie mobile de troisième génération dans les provinces du pays, le projet qui a débuté en 2012. Ritel a été créé dans le but de développer qualitativement et quantitativement le réseau de téléphonie mobile et a défini son objectif principal comme la création de sites de téléphonie mobile de troisième génération dans tout l'Iran. Et sur cette base, la conception, la fourniture des équipements et la réalisation des sites mentionnés dans le pays ont été confiés à l'entreprise Kiatel. Mais les objectifs des projets hors télécommunication ont été de créer et de développer des réseaux de communication, d'organisation, d'institutions, de centres éducatifs, d'hôpitaux et d'installations industrielles en Iran et de fournir la possibilité d'utiliser de nouveaux services de télécommunication pour les utilisateurs. Plus de 20 projets de communication dans le secteur hors communication ont été réalisés par cette entreprise.
Thank you.